Je me dois de vous mentionner qu'il y a deux autres Patreons de rajouter aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Merci à Sébastien et Sylvain. Bienvenue à vous. Puis j'espère que vous allez aimer ce que vous allez entendre et voir. Dans la jasette numéro 38, je vais te faire une suggestion de podcast. Je vais te raconter une histoire, celle de Cool Papa Bell. Je vais avoir des faits amusants pour toi, une anecdote de dentiste et je vais te parler de la bucket list de Frank Étier. Et ça commence, ça commence là. Dans la jasette numéro 38. Je commence ça tel que promis. Je vous ai parlé au cours des dernières jasettes de votre bucket list. J'ai commencé à recevoir des bucket list des gens, puis j'ai décidé de pas faire une jasette au complet là-dessus, mais de vous faire la bucket list d'une personne par jasette. Donc, vous êtes encore le bienvenu. De m'envoyer vos bucket list, bucket list qui veut dire des choses que vous voudriez faire avant de mourir absolument. Vous pouvez m'envoyer ça via le barbudeville@commercial.gmail.com. Ça va me faire plaisir de les lire dans la jasette. Donc, on commence avec la jasette de l'ineffable. Et pour le moins, l'ineffable. On commence fort, attention. On commence avec un partisan des Red Sox de Boston, des Bruins de Boston, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et un partisan de tout ce qui s'appelle sport à Boston. Et j'ai nommé le seul, l'unique, évidemment, Frank Étier. On y va tout de go. Et là, il me nomme les choses qu'il a réalisées, OK, sur sa bucket list. Aller au Fenway Park, réalisé pour la première fois en 1999. Et il a retourné au Fenway Park au moins 25 fois depuis. Un autre des choses qu'il voulait réaliser sur sa bucket list, c'était de marcher sur le terrain du Fenway Park à Boston. Il l'a fait. Rencontrer David Big Papi Ortiz. Il l'a rencontré deux fois. Puis d'ailleurs, même, il y a sa signature qui s'est fait tatouer sur le bras. Aller au TD Garden, c'est pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est l'aréna des Bruins. Un autre qui était sur sa bucket list qui a réalisé, c'est prendre l'avion pour aller dans le sud, dans un immense hôtel sur la plage. Comme moi, lui qui vient d'une famille pauvre, évidemment, dans ses yeux d'enfant, c'était inaccessible. Pareil pour moi, j'ai fait la même chose que lui. Il a fait une croisière dans les Caraïbes. Wow, va falloir que tu me comptes ça, Frank. Il est allé au Times Square à New York. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Il a nagé avec les dauphins. Puis il dit un paquet d'autres. Un paquet de trucs encore sur ma liste. Bon. Il y a aller au Wrigley Field. Je sais, de Wrigley Field de Chicago, aller voir les Cubs. Je sais qu'il était censé y aller cette année avec Daniel Lambert. Mais finalement, à cause de la COVID, ben, ça n'aura pas lieu. Ça reste donc dans ses... dans sa liste de qu'il n'a pas encore accompli sur sa liste de bucket list. Après ça, allez voir les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Gillette Stadium. Vous voyez que le gars, il aime le sport, là, c'est clair. Là. Après ça, participer à une pratique au bâton au Fenway Park, autant pour frapper qu'être dans le champ, attraper des balles sur le terrain. Aller au Pérou, faire le kit au complet, Machu Picchu, puis la ligne de Nazca. Excuse-moi, je ne sais pas c'est quoi la ligne de Nazca. Tu me rafraîchiras la mémoire, Frank. Oh, amener ma douce à Hawaii. Oh boy, il va, hein? C'était romantique, ça. J'aime ça. Visiter un volcan. Ça, c'est intéressant. Nager avec les requins. Bon, tu vois tout de suite que notre Frank, c'est, comment je pourrais dire, donc? C'est un paradoxe sur deux pattes. Hein? Il a nagé avec les dauphins, puis là, il veut nager avec les requins. OK. Visiter tous les stades de baseball, ouais, évidemment. Aller à Cooperstown. Ah, ça, tu vois, moi, je l'ai fait, puis je te garantis que tu te capoterais ta vie. Ben, c'est pas mal ça, Salis. Ben, je te souhaite tout ça, mon Frank. L'espace d'une lecture de Bucket List, tu nous as fait rêver un peu là, avec ton... avec le Pérou, entre autres, là, ça c'est vraiment cool, ouais. Ça, c'est une place à aller voir. Hawaï, bien évidemment, moi aussi, je trouve ça bien romantique. Là, peut-être moins quand il y a des vagues de 20 pieds dans les airs puis que les volcans sont en éruption, mais ta visite de volcan, tu pourras faire en même temps. T'sais, tu pourras faire une pierre deux coups, là. Aller avec ta douce à Hawaï, puis aller visiter des volcans. Puis même nager avec les requins. Si tu pourras en faire trois d'une shot d'une semaine, c'est payant, ça, là. Visiter tous les stades, ça, c'est fort possible. Puis aller à Cooperstown, c'est encore plus possible, là, c'est vraiment pas loin. Ben merci beaucoup, Frank Etier, pour ta bucket list. Et je dois mentionner que Frank est un fidèle Patreon aussi. Hein? Ça, c'est mauditement important. Mais en passant, pas besoin d'être Patreon pour m'envoyer ta bucket list. Là, je te prends pareil, là. Je viens de terminer un épisode de podcast de Thomas Levac. Hey, c'est en train de devenir mon podcast préféré, ça, là. Il vient de sortir cette semaine un épisode avec Daniel Grenier, l'ancien membre des Chicken Swell, qui a fait de la musique aussi, qui a fait 3 albums, puis maintenant qui fait de l'humour en solo. Quel bon épisode de podcast! Les gens, ils ont tendance, avec Thomas, à être généreux dans leurs propos, à s'ouvrir l'âme, à... La semaine passée avec Marilyn Jonca, vraiment, là, a été très généreuse. Puis Daniel, aujourd'hui, ben dans cet épisode de podcast-là, que tu auras l'occasion d'écouter peut-être, Daniel a parlé de la relation qu'il avait avec son père, qui a été hyper difficile. Je le savais déjà, mais il est rentré vraiment en profondeur là-dedans, puis je le sentais très, très émotif. Puis... ça a été un bel épisode de podcast. J'avais beaucoup de respect déjà pour Daniel Grenier, l'homme, pour l'humoriste. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ben là, c'est décuplé par mille puis par milliards. Là. Quelle belle personne. Moi, on va dire une affaire de réticite. S'il y aurait plus de Daniel Grenier sur la planète, hein, je pense que ça irait mieux sur la planète. C'est direct de même que je te le dis. Puis en parlant de ça, de l'entrevue de Thomas Levac, je trouve qu'il a poussé un peu plus loin son entrevue, sachant déjà que Daniel Grenier avait fait un documentaire avec Yann Thériault. Ben, je t'invite à aller voir ça sur YouTube aussi. Mais je trouve que Thomas a amené ça encore plus loin. Moi, je pensais qu'on avait fait le tour de la question, mais non, il a amené ça une coche plus loin. Beaucoup d'émotions dans cet épisode de podcast-là, puis ça fait du bien. En tout cas, moi, j'ai pu... je cherche le mot en français, relate. j'ai pu m'associer à ce que Daniel il disait, évidemment, parce que moi aussi j'ai une relation hyper difficile avec mon père. Ben, en fait, j'ai pas de relation avec lui. Mais ben, c'était intéressant dans ce sens-là d'entendre quelqu'un d'autre parler de sa relation avec son père de cette façon-là. Ben, merci beaucoup à Daniel Guérini pour son ouverture d'esprit et sa grande générosité. J'ai trouvé ça très, très généreux. Et Thomas est un animateur hors pair. Vraiment, là, sensationnel. Je sais pas si tu savais, la Barbunation, écoute bien ça. Oh, by the way, c'est l'un des faits amusants, mais sans background ou écho. Je sais pas si tu savais, la Barbunation. Il y a une récente étude qui dit que 20% des gens habitant en Grande-Bretagne disent que quand ils se réveillent le matin, ils ont moins de vêtements qu'ils en avaient quand ils sont couchés. Premièrement, je trouve ça drôle comme étude. Puis deuxièmement, ils ont-tu vraiment mis de l'argent là-dessus? Je suis perplexe, Barbunation. Barbunation, écoute bien celle-là, tu vas tomber sur le cul, c'est clair. Écoute bien, écoute bien. Ça, c'est un what the fuck fun fact. OK? Un ami de Kurt Cobain a écrit sur le mur de l'école: Kurt smell like teen spirit. OK? Kurt Cobain, quand il a vu ça, il a assumé que c'était contre l'establishment, que c'était un slogan pour dénoncer. Lui, il en a fait une chanson titre pour le deuxième album de Nirvana. Mais en fait, là, c'est sa copine de l'époque qui avait ri de lui. Parce que souvent, Kurt oubliait son déodorisant puis il mettait celui de sa copine qui s'appelait Teen Spirit. Imagine-toi donc. Ça détruit complètement un mythe à propos d'une chanson. La Barbunation, tu connais sûrement les Beach Boys. Tu connais sûrement la chanson Good Vibration que Marky Mark and the Funky Bunch ont repris à l'époque. Mark Wahlberg, le comédien. Savais-tu que ça a pris 90 heures d'enregistrement, séparé en 17 sessions à Los Angeles, pour faire cette chanson-là? Remarque, je trouve que c'est beaucoup pour une chanson pop. C'était tes faits amusants. Petite anecdote, écoute, bien sûr, aujourd'hui, j'allais avec mon fils, on est jeudi le 9 juillet, chez l'orthodontiste. Je sais pas si on dit ça de même, là, mais anyway, tu me reprendras. J'allais avec lui parce qu'il allait se faire installer une genre de petite machine d'embauche pour élargir son palais. Oh my God! Je sais pas si t'as été au dentiste dernièrement, mais je pense que j'en ai parlé dans une des dernières jasettes. Prennent beaucoup de précautions. Je suis arrivé là-bas. Je me devais de laisser mon fils à la porte. La secrétaire venait ramasser mon fils. Moi, j'avais un masque. Mon fils avait un masque. Mon fils rentrait dans le bureau du dentiste, de l'ortho. Moi, je devais attendre dans mon auto, dans le stationnement. Après, mon fils venait me chercher quand il avait fini. Mais tu t'imagines, pareil, mon petit garçon de 9 ans qui se fait installer ce genre de machin chouette dans la bouche, puis moi je suis pas là pour élargir son palais. C'est là que tu dis, ouais, mon fils il a grandi, mais en même temps je le trouve jeune, tu sais, mais en même temps on les protège tout le temps, puis blablabla, puis je pourrais partir là-dessus, mais je ferai pas ça. Donc après ça, il vient me chercher parce que la dentiste, la spécialiste va m'expliquer comment serrer cette machine-là pour élargir le palais. Ça dépasse l'entendement. Il en bave tellement, il y a tellement de salive dans la bouche. C'est incroyable. Elle me dit, ben, la spécialiste me dit que ça serait normal là, au cours des prochains 24 heures. petit bonhomme, il a de la misère, puis c'était drôle de l'entendre. Drôle puis pas drôle, là, on s'entend, de l'entendre en sortant de là. Ah, papa, c'est la pire journée de ma vie. Je me disais, ouais, il y a de l'affaire pire que ça dans la vie, mais en même temps, je le comprends, lui, avec ses 9 ans, ses presque 10 ans de vie, pour lui, c'est difficile, là. Mais tout ça pour dire que chez les dentistes, on prend ça au sérieux. Je sais pas si sont... les spécialistes sont tous pareils, puis il y a juste la même chose, mais. Je vais te dire, là, c'est assez impressionnant de les voir agir. Puis je pense qu'il faut avoir ce souci-là des autres, de faire attention. On est... Je pense que même si on n'accepte pas le masque et toutes ces choses, je pense qu'il va falloir accepter tout ça, puis faire attention. Puis, parce que moi, je côtoie des gens qui n'en portent pas de masque, puis je côtoie des gens qui en portent, puis qui font attention, puis... Donc, puis je vois beaucoup de gens qui n'en portent pas, puis ça me questionne. Puis à matin, ça me questionnait beaucoup, là. Mais je pense que dans les lieux publics, faut faire attention. Puis en même temps, je suis comme tanné d'en parler, là, de la pandémie, puis de la COVID. Puis on dirait que je veux pas trop t'achaler avec ça dans la jasette. T'en entends assez parler. Hier, on avait d'ailleurs une rencontre avec les parents du hockey, de la Tombe C, l'équipe de Théo, C1. Les coachs remettaient un cadeau aux enfants. Très beau cadeau, un beau tapis des lions avec le nom de chaque enfant sur chaque tapis. C'est vraiment une belle attention, c'était vraiment apprécié. Mais nous, les parents, là, les enfants, ils ont joué dans le parc là, avec des jeux... c'est un parcours ninja qui appelle, là. C'est super bien fait. C'est à Saint-Jérôme, à côté de la nouvelle aréna, là. Le sol est spongieux aussi, là. C'est vraiment beau et bien pensé. Pendant que les enfants s'amusaient dans le parcours ninja, nous, les parents, on parlait ensemble, puis elles devinent de quoi qu'on a parlé. On a parlé de la pandémie pendant tout le temps. Tout le temps que j'étais là, tu sais. Ça a duré 1h30. J'avais le goût de parler d'autres choses, mais je voyais bien que les parents... Eux, il n'y avait aucun intérêt à parler de d'autres choses que de la pandémie puis de ce qui se passait avec la COVID. Puis c'est pour ça que je regarde pas les nouvelles, moi, on m'a dit. Puis depuis le début, je regarde pas les nouvelles. Je me tiens juste au courant là, du principal via Twitter. Là. C'est-à-dire des règles à suivre. Mais à part de ça, là, tu me verrais pas écouter sur YouTube les imbéciles puis les... ceux qui font de la propagande, puis non. Moi, je vais essayer d'être le meilleur citoyen que je peux, d'aider à ma façon. C'est pas mal ça, je pense. Puis je pense que c'est ça qu'on devrait faire, penser aux autres, pas juste à soi. Mais ça, c'est difficile. Je me rends compte comment que c'est le combat d'une vie, ça, puis de pas juste penser à soi. Puis pendant la pandémie, mais je le savais déjà, puis sûrement que tu le sais déjà toi aussi. Pas si je devrais dire ça, mais les gens en général me déçoivent énormément, je vais te le dire. Là. Je les vois penser juste à leur petit nombril, puis ça m'achale profondément, mais je devrais pas être surpris, comme toi non plus, tu devrais pas être surpris. Ça a toujours été ça. C'est une des caractéristiques de l'humain, en fait. Là. On pense à notre nombril à nous avant de penser aux autres. Bref. Ouais, ça finit down, hein, ce segment-là. mais bref, il y a de l'espoir pareil, là. Puis on va s'en sortir, bâtard. Puis. Je sais pas que. Ouais, je voulais pas tomber dans le négatif, mais je pense pour ce segment-là, c'est pas mal raté, là. Laisse-moi donc te faire lecture d'une bonne histoire. Je t'ai parlé au courant des dernières jasettes de George Floyd et je t'ai parlé que j'avais fait quelques textes, une série de textes sur la Negro League, mais j'ai le goût de t'en lire un, c'est une bonne histoire, j'ai l'impression, puis ça peut être intéressant. Je vais te parler de l'homme le plus rapide de l'histoire du baseball. On pourrait le comparer à Ricky Anderson, à Vince Coleman, à Tim Raines, à Ron LaFleur, à tous ces hommes-là, à Lou Brock. à tous ces gars rapides-là. Son nom, c'était Cool Papa Bell. Puis le titre de l'histoire s'intitule Cool Papa Bell. Par un beau matin ensoleillé de mai 1903, est né dans le petit village de Starkville au Mississippi, l'homme le plus rapide de tous les temps, le mythique James Cool Papa Bell. Il faut pas oublier qu'en 1903, les Noirs avaient leur toilette, parce qu'ils pouvaient pas aller dans la toilette du Blanc. Leur abreuvoir, car ils pouvaient pas déposer leurs lèvres charnues sur le même abreuvoir que les Blancs. Il y avait les bancs en arrière des autobus, et le devant de l'autobus était réservé à la race supérieure. Les Noirs étaient libres, mais ils devaient être dociles, comme un bon chien. Et le Noir ne pouvait pas jouer dans le baseball majeur, le sport préféré des Américains, le American Pastime. Le passe-temps national était réservé à la suprématie blanche, et lui, le pauvre petit nègre, n'était juste qu'un nègre après tout. Nous étions que 38 ans après la fin de l'esclavage. Nous étions que 38 ans après que le grand Abraham Lincoln ait mis son pied à terre. Qui aurait dit qu'un nègre, un simple nègre de son état, allait révolutionner la façon de voler les buts? Petit-fils d'un esclave qui ramassait du coton à la journée longue, il allait se sauver des champs avec ses jambes sculptées par le bon Dieu lui-même. Malgré qu'il soit né dans un monde de blancs, malgré qu'il soit né à côté de l'État qui mettait au monde le Ku Klux Klan, soit le Tennessee, rien n'allait empêcher Cool Papa Bell de devenir une légende malgré qu'il n'ait joué aucun match dans les ligues majeures. Quand même ironique quand on y pense. Que le Ku Klux Klan est né l'année qu'a fini l'esclavage, soit en 1865. Comme quoi, une chance que le ridicule ne tue pas, que la bêtise humaine ne tue pas, parce qu'il y aurait bien du monde de mort. Ça sera pire que Thanos. Il a quitté sa petite communauté de Starkville en 1920. Il avait 17 ans. Il est allé rejoindre ses quatre frères plus vieux au nord, à St. Louis, dans le Missouri. Puis avec eux, il allait jouer pour un club semi-professionnel de Canton Hill Club. Il n'était encore à l'époque que James Bell. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était le Far West au baseball. Ça jouait très dur dans les années 20. On peut même dire que c'est un sport extrême à la limite. Il n'était pas rare que des gars aiguisaient leurs crampons de métal avant les games, comme le faisait ce vieux raciste notoire Ty Cobb, aiguiser ses crampons pour les rentrer dans les chevilles de ses adversaires. C'était pratique commune en 1920. James Bell n'était pas ce genre de joueur. Il vous battait plutôt avec sa vitesse. C'est ainsi qu'à travers les parcs de balle de St. Louis commençait le mythique parcours de James Bell. Après avoir passé deux saisons avec le Canton Hill Club, il a signé chez les pros dans la Negro League avec les Stars de St. Louis pour, imagine donc, 90$ par mois. C'est avec les Stars qu'il a fabriqué son fameux surnom. À noter au départ, imagine donc qu'il était un lanceur de balles papillon. Oui, monsieur, lanceur. Un lanceur qui frappe autour de 400. C'est au-delà de l'imagination. Mais comme on parle de Cool Papa Bell, l'impossible est toujours possible. En fait, le mot impossible n'était tout simplement pas dans le vocabulaire de James Bell. Pour les non-initiés, il faut savoir que la Negro League était à l'époque la ligue professionnelle des Noirs. James était rapide sur les sentiers. Et partout ailleurs, il était relax. Il chillait. Aujourd'hui, on dirait qu'il est chill. Avant un match, l'un de ses coéquipiers, le célèbre Oscar Charleston, membre du Temple de la Renommée, l'a rebaptisé Cool en raison de son attitude posée. Après quelques matchs, l'entraîneur de l'équipe trouvait que Cool Bell, James Cool Bell, était comme un père avec tout le monde. Il avait cette attitude, de prendre soin des autres, de tous les autres, comme si vous étiez son enfant. C'était là qu'il a reçu le surnom de Cool Papa Bell. On raconte que le grand coureur olympique Jesse Owen a refusé une course un contre un contre Cool Papa Bell, lui qui avait déjà remporté des médailles d'or devant Adolf Hitler pendant les Olympiques. Le légendaire Satchel Paige clame à qui voulait l'entendre qu'il avait entendu Owen refuser la course. Les journalistes de l'époque sont unanimes pour dire que Cool Papa Bell aurait pulvérisé un contre un Jesse Owen. Lui, Cool Papa Bell, disait qu'Owen était une idole et contrairement à lui, il n'aurait pas eu la bravoure de courir devant le diable, faisant référence à Adolf Hitler. Pour fin historique, Jesse Owen, en 1936, a parcouru tous les parcs de balles de la Negro League et courait contre un cheval autour des buts entre les manches. C'était l'attraction spéciale cette année-là. Il a croisé à plusieurs reprises Cool Papa Bell pendant ces événements, mais il a toujours refusé de courir contre lui. Il faut savoir que dans les années 20, les statistiques n'étaient pas prises au sérieux comme aujourd'hui. Je m'explique. Cool Papa Bell lui-même a déclaré dans une entrevue en 1981, donnée au Hall of Fame, qu'un soir il avait frappé 5 coups sûrs et volé 5 buts, mais comme le marqueur avait oublié de noter la partie, alors le lendemain dans le journal, vous n'aviez que le score d'ajouter aux stats. C'était les années 20. En tant qu'amateur de balle, j'ai pas mémoire d'avoir lu qu'un joueur avait volé 5 fois et frappé 5 coups sûrs dans la même maudite partie. Question du journaliste. Étiez-vous fâché de l'oubli du marqueur? Cool Papa Bell de répondre non. Le lendemain, au même parc, j'ai frappé 5 coups sûrs, j'ai volé 5 buts. Fin de la discussion. Cette même année, en 1933, il a volé 175 buts. La Negro League avait des grands joueurs dans ses rangs, mais disons qu'elle était plutôt folklorique pour le reste. Satchel Paige a déjà dit, une fois qu'il jouait pour St. Louis et moi je lançais pour Pittsburgh, il a frappé une flèche qui a sifflé à côté de mes oreilles. Je me suis retourné, puis je jure de mes yeux, avoir vu la balle le frapper quand il a glissé au deuxième but. Mythe, légende ou réalité? Mais celle-là, l'histoire la plus connue et colorée concernant Cool Papa Bell vient de son ancien co-chambreur sur la route, probablement le plus grand joueur de balle que le baseball aurait jamais connu d'après moi, et plusieurs autres, le Black Babe Ruth Josh Gibson. Gibson de dire, écoute bien ça. Cool Papa Bell était tellement rapide qu'il pouvait fermer la switch de la lumière et être dans la couverture de son lit avant que la chambre devienne noire. Mythe, légende ou réalité, à toi de choisir. Moi, avec mon cœur d'enfant, je vais te dire réalité. Au final, il a rejoué chez les pros de 1922 à Tachtatuc à 1950. Et l'hiver, il a joué 21 saisons au Mexique, à Cuba et dans l'État de la Californie. De plus, il a gagné 3 championnats avec St. Louis, 3 avec Pittsburgh et 3 avec Homestead. En 1950, les ligues majeures lui ont offert un contrat, maintenant que les Noirs pouvaient jouer sur le même terrain que les Blancs. Mais Cool Papa Bell a refusé l'offre des Browns de St. Louis, disant qu'il était tout simplement trop tard. Puis, de 1954 à 1970, il est devenu gardien de sécurité de nuit au City Hall de Saint-Louis. Il a pris sa retraite à l'âge de 67 ans. Il a été le 5e joueur de la Negro League à être élu au Temple de la renommée du baseball. Puis ça, c'était en 74. Il est mort d'une crise de cœur en 1991, 3 semaines après sa femme et complice de toujours, Clara. Il avait 87 ans. Un jour, un journaliste lui a demandé s'il était né trop tôt pour sa carrière, faisant référence au fait que les ligues majeures ont accepté les Noirs dans leur rang seulement en 1947. Cool Papa Bell de répondre, c'est pas vrai. J'ai pas commencé ma carrière trop tôt. C'est les ligues majeures qui ont ouvert les portes beaucoup trop tard. James Cool Papa Bell. Bonsoir, il est parti. Cognito Fun, c'est un centre d'apprentissage qui met l'enfant au centre des priorités. Sais-tu qu'est-ce qui est beau? Ben, c'est pas les enfants qui s'adaptent à Cognito. C'est Cognito qui s'adapte aux enfants. Je te donne un exemple. Ton enfant aime pas lire, a de la difficulté avec la lecture, mais il adore les films d'Harry Potter. Ben, c'est possible que Cognito et ses enseignants vont s'adapter à ton enfant à ce niveau-là, puis ils vont travailler autour d'Harry Potter. Parce que ton enfant, c'est pas un moldu, c'est un être extraordinaire à part entière. Est-ce qu'il va apprendre chez Cognito va devenir des acquis à vie. Pour l'été 2020, on a un camp d'été immersion anglaise. Pour plus d'informations, cognitofun.ca. Sinon, le 579-882-8211. Le 579-882-8211. cognitofun.ca.